Et donc, à ce titre, quand les droits fondamentaux de ces personnes sont ostensiblement violés, et ce n'est pas la peine de raconter combien ils sont violés, eh bien, c'est le crédit du projet européen lui-même qui prend un sale coup. Parce que si le projet européen, ça n'est pas l'exercice plein et entier des droits fondamentaux tels que consacrés dans la Charte ou dans la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'est-ce que c'est le projet européen? Et donc là, sur cette question fondamentale, le Parlement européen, depuis le début du mandat, mais on avait déjà bien bossé là-dessus avant ce mandat, et particulièrement sur ce mandat, parce que les gouvernements des États membres ont vraiment développé des politiques discriminantes, très fortes, en les assumant d'ailleurs avec des propos eux-mêmes racistes, au plus haut niveau de l'État, et on connaît, on a connu, et on connaît encore, hein, ce type de comportement. Et donc, face à ça, le Parlement européen a vivement réagi. J'ai compté que depuis le début de la mandature, la question de la situation des Roms en Europe avait été adressée 75 fois au Parlement européen, dans des résolutions ou des rapports, dont 3 sont spécifiques à la question des Roms. Les autres pouvant être la question de l'égalité homme-femme en Europe ou la question des droits fondamentaux plus généralement, et spécifiquement 3 résolutions et mentionnées, explicitées à travers des paragraphes dans 75 textes adoptés par le Parlement européen depuis le début de la mandature. On a gagné la mise en place d'une stratégie, d'un cadre européen pour l'inclusion des Roms. Un vocable, c'est de la nouvelle langue européenne, hein, c'est pour que tout le monde se comprenne, au Parlement européen, on s'est accordé sur l'inclusion des Roms. Qui fait obligation, c'est ça le caractère intéressant de cette stratégie européenne, c'est qu'elle demande à chacun des États membres d'établir un plan d'action national pour l'inclusion des Roms sur 4 questions fondamentales, l'accès au logement, à la santé, à l'éducation et à l'emploi. Et également des dispositifs de lutte contre la discrimination et le racisme. Alors, je prends cet exemple parce que là, on a, j'allais dire, du dur en termes de droit européen. On a une stratégie, on a un Parlement européen mobilisé, et ce que l'on arrive à obtenir comme résultat sur le terrain est vraiment pas nul, mais dur, tellement dur. Ces petits pas sont tellement durs à obtenir, alors même qu'on a, j'allais dire, tout le dispositif législatif et les institutions politiques européennes mobilisées, parce que la commissaire Reding aux droits fondamentaux, c'est très vigilante, une madame qui est de droite, hein, donc c'est pas forcément notre responsabilité politique, mais elle est très à cheval sur cette question. Je pense d'ailleurs que si la majorité des Roms étaient musulmans, on n'aurait pas ces résultats-là. Hein. Il se trouve qu'en général, ils sont plutôt chrétiens, donc ça se passe mieux. Mais n'empêche, tout ceci étant dit, c'est quand même, ça vous montre quand même l'épaisseur de la difficulté qu'il faut surmonter. Alors c'est vrai que sur la question des Roms, contrairement à celle des migrants pays tiers en Europe, il n'y a pas un réseau associatif issu des Roms eux-mêmes. Il y a très peu de porte-parole de la communauté, où il y en a trop. Dès qu'il y en a un peu, il y en a trop parce que ça devient illisible, incompréhensible, etc. Mais on a du mal à trouver des porte-paroles qui peuvent aller revendiquer. C'est un peu le problème aussi avec les migrants, d'ailleurs, qu'on peut rencontrer. Mais donc, le tissu associatif est certainement moins dense autour des Roms. Donc ça, c'est une petite difficulté supplémentaire. Mais néanmoins, que c'est dur. En même temps, il faut regarder, je dis, sur le terrain, c'est pas facile, mais il y a quand même des villes où il se passe des choses superbes. Enfin, j'imagine, ici à Strasbourg, vous faites des choses. Dominique Bonnet à Montreuil a fait des choses extrêmement pertinentes et convaincantes. Et puis, le Conseil de l'Europe, qui n'est pas l'Union européenne, hein, Conseil de l'Europe, mais ce n'est pas Strasbourg qui peut expliquer ça, parce que vous êtes mieux formés à ce type de questions qui, en général, ne sont pas trop repérées ailleurs. Au Conseil de l'Europe, il y a maintenant un réseau actif des villes et un système de valorisation des initiatives qui sont menées par les collectivités locales et territoriales sur cette question dans des domaines très divers. Et il y a plein de belles histoires maintenant qui existent, qu'on peut raconter, qu'on peut aller voir sur le terrain, qu'on peut toucher du doigt. Et finalement, je dirais que l'arbre des propos discriminatoires
au plus haut niveau cache un peu la forêt des initiatives convaincantes qui se développent sur le terrain. Ça aussi, ça montre, là, ça on touche un problème de démocratie d'institution, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la densité des initiatives, pas seulement sur la question des Roms ou des migrants, mais des initiatives de transformation qui sont en œuvre, solidaires, durables, mises en œuvre par les habitants, par leurs associations, etc., est extrêmement dense et en même temps très peu visible. C'est-à-dire qu'on n'atteint pas un seuil de reconnaissance qui permet de redonner un peu espoir à beaucoup de gens et qui permet de peser dans les arbitrages législatifs et politiques. Donc là, on touche un problème qui concerne beaucoup de domaines de l'action publique, qui est problématique, qui correspond aussi au mode de fonctionnement renforcé par certainement les réseaux, les communications horizontales et la capacité que des acteurs ont aujourd'hui à partager des expériences sans être médiés par des pouvoirs verticaux. Et on voit aujourd'hui comment, sur la question des migrations, des Roms, des migrations, de l'intégration, on voit comment les pouvoirs verticaux, les États membres, sont totalement hystérisés quasiment sur cette question, dans une situation d'auto-blocage politique, parce qu'ils doivent ou ils veulent, à travers la question de qui a le droit de rentrer ou pas sur le territoire national, donner à tout à chacun des gages sur le pouvoir central que par ailleurs, sur beaucoup de questions, celles de l'évasion fiscale, celles de l'environnement et bien d'autres encore, ne peuvent plus être gérées de façon efficace seulement à l'échelle des États membres. Donc il reste là pour les gouvernements nationaux un centre d'exercice du pouvoir qui entre ou pas sur mon territoire, donc ils usent et abusent au prorata que leur échappe une puissance d'action sur d'autres leviers essentiels. Et ça, c'est aussi un vecteur d'explication. Il y a des choses aussi plus triviales, c'est qu'il y a un vrai marché. Et là, je dirais que l'Europe joue à fond ce marché de l'industrie sécuritaire à travers des opérations de sécurisation des frontières, de prétendues smart borders, frontières intelligentes, de dispositifs quasi militaires de surveillance avec des résultats qu'on connaît, 20 000 personnes noyées dans la Méditerranée depuis les années 90, et vous connaissez très bien, il y avait une opération il y a un mois à Strasbourg, et donc il y a aussi des intérêts industriels et des lobbies industriels qui pèsent pour le développement de cette industrie de la sécurité, du contrôle, de la surveillance, des nouvelles technologies, de localisation, d'identification, etc. Et ça, on est là dans une interface entre des dispositifs militaires et civils à vocation de contrôle. Et puis, il y a l'essentiel de l'affaire, j'allais dire, pour que la grosse ficelle du bouc émissaire fonctionne malgré tout, c'est l'accumulation des frustrations sociales. Et c'est vrai que les frustrations sociales accumulées partout en Europe par les politiques austéritaires, c'est-à-dire d'austérité, mais associées à des pouvoirs capables de démontrer leur capacité répressive, donc les politiques austéritaires, qui sont très dangereuses et qui sont des moyens de contrôle finalement de niveaux de frustration sociale élevés et qui s'élèvent dans les sociétés européennes. Il faut prendre conscience de ça, parce que c'est un élément... Il y a beaucoup de gens qui ont pas bien prendre conscience parce qu'ils sont dans la frustration sociale à Paris. Mais je veux dire, c'est très déterminant pour que ça fonctionne, la ficelle, l'affaire du bouc émissaire. Donc ça sert aussi de forme d'échappatoire, quoi, de comment dire, de soupape pour une frustration trop vive. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des ingrédients qui font que cette stratégie inefficace, absurde, liberticide ne fonctionne pas. Parce que finalement, et je vais rappeler, même si c'est totalement tragique, c'est dans le début octobre, dans ce bateau qui a coulé, qui avait été repéré, dont vraiment les gardes-côtes ont absolument tardé à porter secours, hein, les gens avaient, beaucoup de personnes avaient des chaussures neuves. Et moi, j'ai lu ça et ça m'a bouleversée parce que je me dis, qu'est-ce qui se raconte à travers ces chaussures neuves? Il se raconte l'espérance d'une vie nouvelle. Parce qu'on ne met pas des chaussures neuves pour partir comme au suicide ou avec un flingue dans le dos en courant, en s'échappant. Non, les chaussures neuves de ces personnes disent l'espoir et disent aussi la préparation. En fait, disent la migration, c'est aussi un projet. Pas pour tout le monde, pas pour les Syriens qui aujourd'hui sont obligés de prendre le risque de se noyer en Méditerranée pour arriver sur le sol européen. 40 000 en Europe, 2,2 millions sont sortis de Syrie. Tu disais 500 000 au Liban, 1 million en Turquie, on a dépassé 500 000 au Liban, plus la Jordanie, plus l'Irak. Et donc tout, c'est pas pour tout le monde comme ça, mais pour beaucoup de gens, la migration est un projet. Et ce projet de mobilité pour faire ce qu'on fait tous, c'est-à-dire essayer de réunir les meilleures conditions pour améliorer notre qualité de vie et les qualités et le futur de nos enfants. C'est-à-dire, et cette énergie-là qui est considérable chez tout à chacun, c'est elle le moteur qui devrait être accompagné. Et de cette énergie-là, qu'est-ce qu'on produit avec les politiques répressives? On produit de la désolation, quelquefois la mort, et puis des atteintes graves, parfois irréversibles, à l'intégrité des personnes. Vous voyez ? J'arrête de parler des chaussures neuves, parce que moi, ça me... Voilà. Et donc c'est ça, là, en fait, la confiance qu'on peut avoir dans une nouvelle politique migratoire. Elle doit être fondée sur ce projet de vie meilleure des gens qui partent. Et ils ont raison, parce que la preuve est faite que les projets de migration, quand ils aboutissent, effectivement, donnent des conditions de vie, d'espérance de vie, simplement, vivre plus longtemps, vivre mieux, avoir des enfants qui vont pouvoir aller à l'école, qui vont pouvoir avoir un emploi inespéré dans le pays d'origine. Tout ça est absolument vrai, démontré. Donc c'est tout à fait efficace. Et ces personnes qui ont migré, les relations qu'elles entretiennent avec leur territoire d'origine, elles sont extrêmement fructueuses pour leur famille, pour les villages, pour le pays. Et ça, c'est aussi, je veux dire, quand on dit ce que renvoient les migrants dans leur pays, c'est 4 fois l'aide au développement. C'était des chiffres de 2009. Il faudrait aller voir ça, mais je n'ai pas remarqué des augmentations exponentielles des budgets de l'aide au développement. Donc on doit toujours être dans les clous. Hein. Voilà, et c'est possible d'accompagner ces projets de vie, c'est tout à fait possible. Et au mieux on les accompagne, au plus les bénéfices sont immenses pour les familles, pour les sociétés d'accueil et pour les sociétés d'origine. Donc la perspective, c'est vraiment le droit à la mobilité. C'est vraiment de trouver, de lever les obstacles et de trouver tous les moyens d'accompagner. Accompagner, c'est-à-dire sécuriser ces parcours de mobilité. Et donc, évidemment, les sécuriser, c'est les légaliser, les accompagner. Donc le choix, ça n'est pas comme les gens voudraient le faire croire. Dès qu'on conteste une politique de répression aux frontières, ah oui, alors vous voulez, hein, etc. C'est idiot, c'est stupide. Donc, la question, c'est d'organiser, d'accompagner et de faire en sorte que ces parcours de vie puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles, dans le plus grand bénéfice de tous. Et ça, c'est vraiment un objectif principal. J'ai essayé d'identifier avec vous les obstacles qui étaient, non pas sur le parcours concrètement, il faudrait rentrer dans les mesures, si vous voulez, pour décrire ce qu'on pourrait être une nouvelle politique de migration. Il faudrait rentrer concrètement dans qu'est-ce qu'il faudrait décider pour lever les obstacles successifs qui sont mis sur le parcours des migrants. Ça, on peut discuter de ça avant, après, si vous voulez. Et identifier ce qui fait obstacle à cette politique tellement désirable. Quoi. Et on voit bien que c'est dur, parce qu'on a quand même vivement l'impression que c'est une dureté qui s'impose au-delà des changements politiques. Donc c'est profond dans les sociétés. Vous voyez ? Et là, on voit quand même, sur la question des Roms, par exemple, en ce moment, moi, c'est dans ma région, à Lille, il y a une centaine de Roms qui étaient sur un parking d'une fac, la ville d'Ascq, qui étaient là, on ne sait pas, extraordinaire, hein, mais dans une caravane l'hiver sur un parking d'université, c'est pas vraiment les conditions de vie pour rebondir, etc. Mais néanmoins, elles ont été virées, sans aucune solution, contrairement à la directive du 26 août, maintenant bien connue par de tous, et elle se retrouve aujourd'hui accueillie par les syndicats à une bourse, à la Bourse du Travail de Lille. Évidemment, bon, les syndicats, c'est un problème pour leur activité, et la bourse n'est pas faite pour ça. Donc il y a 100 personnes, là, ça devient une crise humanitaire et une crise sanitaire profonde. Grosse pression, en plus, il y a le ministre du Logement qui est en charge aussi du logement d'urgence et qui est dans notre parti politique. Donc évidemment, tout ça nous... Il faut travailler avec ses contradictions, mais aussi avec ses moyens d'action. Et donc, du ministère du Logement ont été déployés des moyens de financement. Hein, et ces moyens de financement, aujourd'hui, pour de l'habitat d'urgence pour ces personnes, ne trouvent pas preneur. Ne trouvent pas preneur. On ne trouve pas de ville, on ne trouve pas de territoire, on ne trouve pas de lieu. Pour être aménagé pour accueillir ces personnes. Et c'est la stricte vérité. Donc, pour vous dire, alors évidemment, on pourrait imaginer que s'il n'y avait pas un certain nombre de déclarations, s'il y avait plus de solidarité, si c'était mieux assumé politiquement, c'est ce que je pense, hein, on trouverait preneur. Mais en tout cas, dans la situation actuelle, alors c'est peut-être parce qu'on est à 3 mois des élections municipales, j'en sais rien, et c'est ce que nous dit la Commission européenne. La Commission européenne nous dit... Le Fonds social européen pour l'insertion des plus démunis, le Fonds de développement régional qui permet vraiment d'investir dans le logement des personnes les plus marginalisées, ces fonds-là ne sont pas ou peu utilisés. Et il reste encore plein de fonds mobilisables, mais les acteurs locaux ne les prennent pas pour développer des projets sur leur territoire, certainement dans la peur de susciter, déjà avant l'aspirateur, des réactions de leur population, de leurs futurs électeurs, qui seraient censés être déclarés hostiles. Nous, on a un maire, je le dis, il est socialiste, hein, dans la région de Lille, à Élève, il a tenu bon, il s'est pris une grosse famille. Pas de Roms chez nous, les Roms dehors, etc., etc.
Il dit quoi ?
Et il est allé au débat, il s'est fait cracher à la gueule. C'était vraiment violent, il a tenu bon, et maintenant, le sujet est... Donc, il faut... Voilà, c'est un sujet sur lequel il faut combattre. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas au PS, qui sont... Je suis le réseau des élus hospitaliers, on a créé ça dans la région d'Ambassade, le réseau des élus hospitaliers qui accueillent, quoi, qui donnent... Et voilà, et donc, l'idée aussi c'est ça, c'est, je reboucle et je termine sur les bonnes pratiques, c'est les maires, c'est très important que les maires qui aient pris des initiatives, des adjoints, hein, qui aient pris des initiatives courageuses sur ces questions-là, soient réélus. C'est décisif, parce que sinon, les élus ne seront pas, ils se diront, mais là, il ne faut pas que je touche à ça, sinon c'est foutu, quoi. Pour mon prochain mandat, c'est terminé. Non, il faut absolument que les personnes qui assument ces questions, avec courage, comme Marie le fait, soient réélues et brillamment réélues. C'est absolument décisif. Et c'est pour notre qualité de vie, si vous voulez, parce que Voilà, c'est quelque chose qui nous atteint tous profondément, la violation sociale, la précarisation, l'hostilité entre les groupes, la montée du racisme, le racisme monte en Europe. Il y a des mouvements, vraiment, je vous assure, ça pue. Il y a vraiment des choses qui sont inquiétantes. Inquiétantes. Moi, je ne sais pas, je ne serai pas dans le prochain Parlement européen, mais je me dis, mais à quoi va ressembler notre prochain Parlement européen, qui a toujours quand même plutôt fait honneur à la démocratie et les droits de l'homme. Il a toujours eu l'ambition de se profiler, et il est plus ou moins bon, mais enfin, globalement, je trouve qu'il a plutôt rempli correctement cette mission d'incarner pour tous les citoyens européens celui qui s'oppose aux violations des droits et qui se bat pour la dignité des personnes. Je me dis, mais c'est pas gagné que ça dure, quoi. Et donc, moi, je pense que quand on va au débat, qu'on n'anticipe pas sur la peur de l'autre du débat, c'est gagnant, quoi. C'est gagnant. Il faut vraiment faire ce que vous faites ce soir, en fait. Hein. Il faut assumer de parler de ces questions.
Moi, je trouve que c'est ça aussi l'honneur de la politique.